Jean-Christophe Ponneau, bonjour.
Bonjour.
Vous vous occupez d'une société, d'une association qui travaille avec un espace muséographique qui concerne la période 14-18. Expliquez-nous donc ce qu'est votre association et ce qu'est cet espace muséographique particulier.
Donc j'ai la chance d'être le président de la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre de Meaux, du Pays de Meaux. Tous les grands musées ont une société d'amis, c'était des choses qui se développaient beaucoup au siècle précédent. L'idée là aujourd'hui est de développer une association autour de bénévoles, avec des bénévoles qui participent, et d'être en gros les ambassadeurs de ce musée, de faire connaître ce musée et d'apporter toute l'énergie de bénévoles autour de ce musée de la Grande Guerre. Donc ce musée de la Grande Guerre, il a été fait à Meaux à partir d'une collection privée, celle de Jean-Pierre Vernet, un collectionneur depuis 40 ans. C'est presque 50 000 objets rassemblés sur toute une vie que l'agglomération du Pays de Meaux a pris en charge et a construit une sorte de bel écrin autour de cette collection, un musée de 7000 m² tout proche de Meaux, autour, et qui contient en tout cas cette collection. C'est 50 000 objets sur la Grande Guerre, donc c'est plus de 20 000 objets, 30 000 documents autour de la Grande Guerre. C'est une porte ouverte, c'est une visite qui fait découvrir, en tout cas une collection qui fait découvrir l'ensemble de la Grande Guerre.
Alors, un mot sur ce collectionneur, comment est-ce qu'il a pu amasser tout ça et qu'est-ce qu'il pouvait en faire à part le donner éventuellement pour un musée public?
Alors voilà, c'est quelqu'un qui tout petit en fait avait de la famille du côté des champs de bataille, du côté de Verdun. Donc dès qu'il, aujourd'hui c'est un monsieur qui a aux alentours de 70 ans, il allait se promener quand il était tout petit avec son grand-père, et son grand-père lui a donné en fait cette envie de comprendre cette Grande Guerre et la souffrance qu'il y a eu autour. Donc en fait depuis qu'il a 14 ans, il collectionnait, donc il a passé 40 ans à collectionner ces objets. Il y en avait partout, il m'a expliqué qu'il avait plusieurs hangars, et l'idée était pour lui de pouvoir aborder tous les aspects à travers les nations, à travers les causes, à travers les conséquences, tous les aspects de la Grande Guerre. Et donc chaque objet, pour lui, racontait une histoire, l'histoire d'un homme, l'histoire d'un pays. Mais en tout cas, voilà, sa phrase, c'est que sa philosophie, c'est que derrière chaque objet, il y a une histoire. Cette collection, elle a failli partir rachetée par le musée de Boston. Et à ce moment-là, le maire de Meaux a réussi à convaincre l'agglomération du Pays de Meaux de racheter la collection à Monsieur Vernet et de construire un musée pour pouvoir accueillir cette collection.
Alors, ce musée est quand même immense, et ce n'est pas qu'un endroit où on a stocké des objets à observer.
Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, non, c'est, il y a une vraie démarche, en tout cas, didactique, pédagogique autour. C'est-à-dire que vous venez là en famille pour pouvoir apprendre et comprendre la Grande Guerre. Donc, on va pouvoir traverser à travers la scénographie, la muséographie. On va traverser, en effet, de 1914 à 1918, à partir de là. Mais il y a aussi énormément de spectacles autour, la musique, les arts, tous les différents arts. C'est un musée à la fois historique, c'est certain, mais aussi culturel. Donc beaucoup de pièces de théâtre y sont jouées. L'idée, c'est que, voilà, de faire découvrir à travers les arts aussi la Grande Guerre.
Alors, on a tous en tête Péronne, voilà, qui reste quand même le fer de lance, on va dire, de la mémoire sur cette guerre. Comment vous vous situez par rapport à cet espace, par rapport à ce mémorial ?
Que ce soit Péronne ou que ce soit le mémorial de Verdun, qui sont deux musées, ou en tout cas historial ou mémorial. L'idée que c'est que le musée de l'agglomération du Pays de Meaux, c'est une porte ouverte. On est complémentaire de Péronne, on est complémentaire du mémorial de Verdun. L'idée, c'est qu'en venant à Meaux, c'est une porte ouverte sur la Grande Guerre. Vous venez visiter pour, en effet, ressentir les choses, puisqu'on va pouvoir toucher des objets, on va pouvoir entendre, écouter, ressentir les choses. Et à partir de là, une fois que voilà, la porte ouverte sur la Grande Guerre, vous pouvez aller après à Péronne avec une autre approche. Vous pouvez aller au mémorial de Verdun, là, avec encore une autre approche. L'idée, vraiment, c'est un musée pour tous et plutôt pédagogique. Voilà.
Sur votre plaquette de présentation, il y a une photo. On a des uniformes d'à peu près, je ne sais pas combien de pays, mais beaucoup de pays. Pourquoi ce choix ?
Le choix, il a été de dire que c'est assez franco-allemand. La Grande Guerre, c'était la Première Guerre mondiale. Il y a plus de 123 nations qui sont représentées à travers soit des uniformes ou des objets au musée de la Grande Guerre. L'idée est surtout pas d'oublier, voilà, que des nations qu'on pourrait appeler mineures dans la Grande Guerre sont présentes, que ça soit les Polonais, que ça soit les Portugais. Voilà, les uniformes sont là pour témoigner. Et il y a énormément de liens avec d'autres pays étrangers, en effet, au musée de la Grande Guerre.
Alors, vous accueillez évidemment des groupes aussi de jeunes, de scolaires, mais vous mettez au point aussi d'autres systèmes de liaison, parce qu'on le sait, la mobilité, c'est pas toujours simple.
Alors, sur les 350 000 visiteurs qui sont venus depuis 3 ans au musée, puisque l'ouverture date de 2011, 35 000 scolaires qui viennent visiter, en effet, tous les ans le musée de la Grande Guerre. Mais ça suffit pas. Il y a d'autres classes qui sont très éloignées, qui peuvent pas forcément venir au musée de la Grande Guerre. Donc là, je vous livre un scoop. À partir du mois de décembre ou du mois de janvier, les classes vont pouvoir demander à pouvoir visiter le musée en direct à partir du moment où la classe pourra disposer d'un tableau blanc interactif ou d'un vidéoprojecteur. L'idée, c'est de pouvoir interagir avec le médiateur en direct pendant la visite, en effet, du musée de la Grande Guerre. Ça sera tous les mardis. Il va falloir s'inscrire, en effet, mais je vous tiendrai au courant dans ces cas-là de l'ouverture de ce dispositif.
Alors, nous, en Sarthe, on est un petit peu loin de cette zone de la Marne, puis plus loin de la Champagne, des zones de combat, on va dire, de la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu par rapport justement à ces batailles?
Alors, il y a une vraie légitimité, en effet, vous avez raison de le souligner, il y a une vraie légitimité à ce que le musée de Meaux soit là. Au niveau historique, voilà, on est au mois d'août, les troupes vont reculer, jusqu'au 4 septembre. Les Uhlans sont à 22 km de Paris, mais les premières troupes, les troupes allemandes vont arriver jusqu'à 35, 40 km de Paris. Et au plus proche, c'est un petit village qui s'appelle Villeroy. Et le 5 septembre 1914, vous allez avoir le premier coup de canon de la bataille de la Marne. Cette bataille de la Marne qui commence en gros à Meaux, qui va aller jusqu'à Verdun. Et on va passer en effet par les marais de Saint-Gond et autres, ces 5 grandes batailles. Donc la bataille de Lourques, c'est une des grandes batailles de la Marne, la bataille de Lourques. Le premier coup de canon, on va avoir des combats mémoriaux, en tout cas et mémorables, autour de Meaux. Des troupes marocaines qui vont venir, 4000 Marocains qui le 5 septembre vont combattre dans des petits villages autour de Meaux. Et puis, en effet, on connaît Charles Péguy qui va tomber à la tête de ses hommes du 276e régiment d'infanterie. C'est aussi ça qui est intéressant autour de cette bataille de Lourques, c'est qu'on va avoir des Marocains qui ont fait plus de 2000 km et en même temps énormément de réservistes de la Seine-et-Marne. Ces gens se sont battus sur leur terre. Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le symbole.
Alors justement, il y a les soldats qui viennent donc d'un petit peu partout pour se battre ici sur le front. Vous êtes vous directement implanté sur un territoire, sur un pays. Est-ce que vous pouvez nous parler de les populations civiles sur ce secteur-là pendant ces batailles? Et est-ce que vous présentez donc ce qui se passait pour les gens qui habitaient, c'était le hasard, hein, s'ils se trouvaient finalement sur ce lieu-là, qu'ils se trouvaient sur les lieux de bataille. Ils ont quitté les lieux, ils sont restés. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
En 1914, alors nous, l'abri, puisque ça s'appelle comme ça, l'abri en fait est essentiellement paysanne. Meaux, qui à l'époque devait avoir entre 15 et 20 000 habitants, la plupart des habitants vont fuir. Il va rester à peu près 2000 personnes dans Meaux à ce moment-là. Les premiers combats arrivent. Il y a encore quelques villageois dans tous les petits villages autour de Meaux. Ils vont subir la bataille. On a des témoignages de personnes qui vont se mettre dans les caves pendant une dizaine de jours, puisque la bataille va durer du 5 au 12 septembre à peu près, jusqu'à ce que les troupes allemandes reculent. On a les témoignages, on a des témoignages d'otages, on a des témoignages de personnes qui s'enferment. Et puis tous ces blessés qu'il va y avoir sur le champ de bataille, on va avoir une figure de Meaux, qui est Monseigneur Marbot, l'évêque de Meaux, qui va organiser en effet dans Meaux le rapatriement des blessés, la nourriture, puisque le conseil municipal, à part un membre du conseil municipal, avait quitté Meaux, mais la plupart des gens avaient quitté. La région était pratiquement désertée, à part en effet quelques personnes qui restaient.
Alors cet aspect-là est mis aussi en valeur dans l'espace muséographique?
Tout à fait. Il y a un espace qui est réservé un petit peu au local. L'idée, c'est de pouvoir en parler. Il y a un centre documentaire qui est ouvert à tous les enseignants et tous les chercheurs. Plus de 30 000 documents, je vous en citais. En effet, l'idée, c'est de pouvoir apporter une réponse, en tout cas, sur tout ça. On y retrouve des choses.
Alors, par la radio, c'est pas facile, mais essayez un petit peu de nous faire visiter rapidement le musée. Comment il est structuré? Si on vient de Ciel-Guillaume, de la Sarthe, de la Mayenne, pour visiter le musée, il faut une journée, sans doute, déjà.
Oui, c'est au moins une demi-journée à l'intérieur du musée, et au bout de 3 heures, vous n'aurez pas fait le tour. Quand on arrive, en fait, il faut monter. Meaux est dans une cuvette, donc vous arrivez dans Meaux, il va falloir ressortir un petit peu sur les hauteurs de Meaux. Et là, vous avez une statue d'une trentaine de mètres de hauteur qui a été offerte par les Américains en 1932, en souvenir justement de la bataille de la Marne. Cette statue de la liberté, notre statue de la liberté, il a été fait le choix de mettre le musée là, et dans cette colline sur laquelle est au sommet la statue, le musée va sortir, donc une structure très horizontale pour pas casser la verticalité du monument, et vous avez cette structure métallique comme une sorte de cube qui sort de la terre. Vous allez pouvoir rentrer sous le musée, on y rentre par en dessous. 7000 m², ça fait un bâtiment imposant. Vous rentrez dans le parc et vous allez passer sous le musée, et à partir de ce moment-là, en effet, vous allez pouvoir monter quelques marches et vous arrivez dans les collections. Dans les collections, en fait, l'idée, quand vous commencez la visite, c'est qu'il va falloir remonter le temps. Et on commence par une animation, une vidéo. Vous êtes complètement impliqué dedans, où on va remonter jusqu'en 1870, où il y a les premières causes, ou en tout cas, on va situer les causes pour démarrer quelque part les causes de la Grande Guerre là. Donc, vous avez une machine à remonter le temps. À partir de là, la visite commence en 1870 avec un premier espace. N'oublions jamais un peu cet état d'esprit avoir l'Alsace et la Lorraine qu'on a perdu, un espace qui va suivre après autour de l'école à la Chambrée, avec cette idée que en effet les instituteurs vont pouvoir préparer, que ce soit les bataillons scolaires qui vont durer pendant une dizaine d'années, mais cette idée de former une population, en effet, peut-être récupérer un jour ou l'autre ces territoires perdus. On va arriver dans un autre espace à ce moment-là où le jeu des alliances, il va falloir comprendre le jeu des alliances, comprendre que la reine Victoria et tous ses petits enfants et arrière-petits-enfants sont à la tête de plusieurs royaumes, et on présente la triple alliance et la triple entente, ce jeu d'alliance qui va provoquer la Première Guerre mondiale. Dès qu'on a franchi ces espaces, une scénographie avec des vidéos nous emmène à ce moment-là avec les soldats, et vous passez à travers les vitrines. Les soldats sont en train de marcher, les figures sont en train de marcher, les soldats sont en train de marcher, les mannequins, avec tous les uniformes de 1914, et vous passez à travers les vitrines. L'idée du scénographe était à ce moment-là, du muséographe, était de dire on part avec eux, il faut ressentir, on part avec eux. Et là, on arrive dans la grande nef du musée. C'est le premier espace. Vous avez au-dessus de vous un blériot, et vous voyez au loin, en 1918, après les tranchées reconstituées dans le musée, puisque vous avez un grand espace de tranchées reconstituées, vous êtes dans cet espace 14, et tout au bout du musée, vous voyez en effet 1918 qui va arriver. Vous voyez un char, un FT-17, vous voyez un SPAD, vous voyez des camions qui ont servi à transporter les troupes, vous voyez des pièces d'artillerie. Voilà la grande nef du musée, et quand vous allez arriver dans cet espace 1918, vous voyez en effet plusieurs choses, et entre autres, sur votre droite, vous allez découvrir un autre espace pratiquement équivalent, 7000 m², en effet. Et là, vous avez tous les espaces thématiques. Un grand couloir réservé aux femmes. Il ne pouvait pas y avoir d'espace thématique réservé aux femmes. C'était pas concevable, parce que les femmes étaient partout, de l'arrière au front. À partir de ce moment-là, vous avez un grand couloir qui va faire le lien entre tous les espaces thématiques, que ce soit les Américains, la marine, les découvertes. Voilà, vous avez de quoi découvrir et passer une belle matinée ou une belle après-midi, en tout cas au musée.
Alors, nous, sur notre secteur, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'histoire de l'armée polonaise. Est-ce que on trouve une marque de cette armée polonaise dans ce musée ?
Vous avez en effet, dans l'espace mondialisation, voilà une thématique, dans l'espace mondialisation, vous avez en effet une veste et une chapka un uniforme, voilà, polonais. Et depuis notre rencontre, je peux vous assurer que je vais aller au centre documentaire et je vais demander à qu'on puisse me ressortir sortir tous les documents concernant l'armée polonaise et je vous les transmettrai avec grand plaisir.
Vous avez aussi fait intervenir récemment Jean-François Kouchina, donc expliquez-nous.
Jean-François Kouchina, je le connais depuis en effet plusieurs années. C'est vraiment un personnage, je pense que vous allez le découvrir après. J'aime sa manière didactique, pédagogique de faire découvrir et de faire ressentir les choses aussi. On l'a fait intervenir au musée, voilà, le 11 novembre, bah évidemment, comme les sociétés d'amis, notre société d'amis, on était chez nous, on était dans notre musée pour faire découvrir notre association à tous les visiteurs. On a demandé à Jean-François de venir et ça a été fantastique. Il a revêtu cet uniforme de l'armée polonaise, il a interpellé énormément de visiteurs. Il y a eu à peu près 3000 visiteurs dans la journée au musée de la Grande Guerre. Je peux vous assurer qu'il a eu un certain succès. En effet, beaucoup d'interrogations. Il y a eu même une personne venant de Russie au musée avec qui il a échangé. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants se demandaient quel était cet uniforme. L'idée avec Jean-François, c'est que c'est lui-même un personnage et il évoque la vie d'un soldat polonais à travers son uniforme. C'est vraiment super.
Qu'est-ce qui vous fait vivre avec autant de passion, finalement, cette histoire? Qu'est-ce qui vous a amené dans ce bain?
L'histoire depuis tout petit, en effet, c'est quelque chose qui me passionne. Ce qui m'intéresse dans l'histoire et à travers mon métier, c'est ce qu'il y a d'intéressant.
Vous êtes enseignant?
À la base, je suis instituteur, voilà. Et toutes les périodes m'intéressaient, mais surtout ce que j'aimais, c'était comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. On peut pas comprendre le monde et on peut pas l'aborder, je pense, sans avoir la compréhension de ce qui s'est passé. Donc, transmettre l'histoire, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce musée, ça aurait pu être sans doute un autre musée autour de l'histoire ou de la société, mais c'est ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'aventure humaine autour, les rencontres, et vous en êtes la preuve aujourd'hui, les rencontres. La richesse autour de ce musée. La Grande Guerre est vraiment une thématique vraiment intéressante parce que je considère, et toutes les personnes que je rencontre, il y a un côté très affect, très émotionnel dans cette Grande Guerre, sans doute à travers le fait que pratiquement un membre de chaque famille y a rencontré la Grande Guerre. Il y a ce côté affect, il y a ce côté émotionnel. Et moi, cette aventure humaine, un musée, monter un musée de cette et participer à ça, c'est une vraie aventure, je vous assure.
Très bien. Je vous remercie. On était avec Jean-Christophe Ponneau, qui est président de la Société des Amis du Musée de Meaux. Merci à vous.